Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'était il y a 60 ans, le 1er janvier exactement. Parmi les 18 colonies françaises du continent africain, un premier pays accédait à l'indépendance, le Cameroun. Un jour historique pour tout un peuple qui se prépare à la cérémonie officielle à Yaoundé, où les drapeaux verts, jaunes et rouges fleurissent la ville. L'heure est à la fête, la foule est nombreuse, excitation et tension sont au rendez-vous. Sur la tribune s'avance le Premier ministre, Amadou Ahidjo, qui commence son discours par cette phrase emblématique, archive.
Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes.
Bonjour Anne-Sophie Stéphanini.
Bonjour.
Cette indépendance du Cameroun est en creux le fil conducteur de votre nouveau roman intitulé « Cet inconnu » aux éditions Gallimard, car il décrit les décennies qui ont suivi cet acte fondateur et plus particulièrement les années 80 et 90, marquées à la fois par l'avènement au pouvoir de Paul Biya, président de la République depuis 1982, et le renouveau de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun en 1991, deux dates clés dans votre récit que vous incarnez à travers le destin de quatre personnages dont nous allons parler dans un instant. Mais pour commencer, bien sûr, la première question qui s'impose, quel est votre lien, votre histoire personnelle avec le Cameroun, vous, Anne-Sophie Stéphanini, qui êtes née en France ?
Alors moi, je suis née en 1982, l'année de l'accession au pouvoir de Paul Biya. Au départ, évidemment, aucun lien avec le Cameroun. J'ai une enfance parisienne, une adolescence parisienne. Et puis à 15 ans, j'ai la chance, grâce à un professeur d'histoire, qui d'ailleurs nous parle des indépendances africaines et de cette fameuse date si importante en 1960. Ce professeur m'emmène au Cameroun le temps d'un été parce que à une centaine de kilomètres de Yaoundé se tient des camps de vacances pour des enfants de Yaoundé. Et je suis là comme jeune fille qui va aider à la tenue des cours avec l'association camerounaise. Et pendant ce voyage, je découvre des étudiants, des professeurs qui vont devenir des amis. Et je découvre une histoire, l'histoire d'un pays, une histoire passionnante, des hommes passionnants qui me parlent de cette histoire et puis qui m'ouvrent un pan de leur mémoire et de leur vie, qui me parlent des écrivains qui sont les leurs et qui vont devenir mes écrivains préférés. Et je pense évidemment à Mongo Betty. Et j'ai, à partir de ces 15 ans, un coup de foudre absolu pour ce pays et pour son histoire, pour ses hommes et ses femmes. Et ensuite, une dette immense, parce que l'étudiante que je vais être et qui se spécialise sur l'histoire de la littérature africaine et en particulier sur l'histoire de présence africaine, doit tout à ce premier voyage et à ce pays.
Où vous êtes retournée régulièrement?
Où je suis retournée ensuite régulièrement. Toujours dans à Yaoundé, qui est du coup devenue ma ville de cœur, et ce roman lui rend hommage.
Et en même temps, ce n'est pas du tout un roman autobiographique, il faut le préciser tout de suite, Anne-Sophie Stéphanini, puisque là, vous racontez l'histoire d'une génération qui n'est pas la vôtre, à savoir celle d'un journaliste camerounais, Jean Martial, et d'une universitaire française, Catherine, qui se rencontrent à Paris à la fin des années 70 et qui, dans les années 80, se retrouvent à Yaoundé où ils militent dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous intéresse à la fois dans cette période et dans ce couple, même si ils se séparent, un couple néanmoins lié par un idéal politique commun?
Je voulais que le roman retrace l'histoire d'un pays et l'histoire de ses combattants. Alors, il y a une trame centrale qui est évidemment l'histoire de Catherine, cette femme qui est professeure et qui va partir à Yaoundé en 1982 et enseigner à Yaoundé au lycée français et puis à l'université. Et l'histoire de Jean Martial, qu'elle rencontre à Paris, vous l'avez très bien dit, alors que lui est étudiant à la Cité universitaire et qui retourne une fois ses études faites à Yaoundé et qui va devenir journaliste dans ce journal d'opposition au régime de Biya, Le Messager, que beaucoup connaissent et qui est emblématique. Et à travers cette histoire centrale, je voulais aussi remonter dans le temps et parler de leur père, ceux qui s'étaient battus pour la vraie indépendance camerounaise, l'histoire de l'UPC, l'histoire des Maquis. Et puis, je parle également de leurs descendants, Ruben et Catherine, qui eux naissent... Ruben et Constance, bravo, qui eux naissent en 1982 et qui sont une autre génération combative avec un autre engagement. Et l'histoire de ces hommes-là me permettait de couvrir toute l'histoire de ce pays de 1956 à aujourd'hui.
Ils sont réunis par un idéal... communiste.
Politique, oui.
Vous avez été communiste, vous aussi, Anne-Sophie Stefanini?
Oui, tout à fait, oui. Mon initiation politique s'est faite en rencontrant des militants communistes qui m'ont parlé à la fois de leur idéal, de leur engagement que je partageais. Et la plupart avaient été aussi des militants contre la guerre d'Algérie et certains d'entre eux des Pieds Rouges. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon deuxième roman, Nos années rouges. L'histoire dans Cet inconnu est un peu différente. Jean Martial, il est journaliste. Son père était membre de l'UPC et en a payé le prix fort. Lui également de l'UPC, mais son engagement se passe pas par les armes, pas par le maquis, pas par la guerre, contrairement à ses pères, mais par la plume et par son travail de journaliste. Et il en paye également le prix parce que en 1991, lorsque arrive l'opération Ville Morte, les soulèvements à l'université, il couvre évidemment ce grand élan démocratique et il est emprisonné quelques mois à la prison de Yaoundé, une prison tristement célèbre pour les opposants à la fois au régime de Annie Liu et aussi à celui de Paul Biya. Et quand il en sort, il est tellement brisé par sa détention qu'il meurt quelques mois plus tard. Mmh. Et ça, c'était une forme d'hommage à ceux qui ont lutté, ont combattu, ont été des journalistes attentifs à la révolte.
Oui, puisqu'en effet, des années 80, on arrive aux années 90 et à cette année 91 en particulier, qui est une année trouble et dangereuse. Vous venez de le dire, Anne-Sophie Stefanini, Jean Martial est arrêté, torturé, emprisonné. Quant à Catherine, son amie, elle va disparaître. Une nuit de mai, en pleine nuit, ce sont donc deux victimes parmi des centaines d'autres, des milliers peut-être, qui subiront le même sort. Pour vous, c'était donc important, nécessaire de mettre un nom, un visage sur ces sacrifiés de la cause dont peut-être plus personne ne parle aujourd'hui.
Je crois que beaucoup en parlent et beaucoup sont fidèles à la mémoire de ces combattants. Moi, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, pendant mes voyages successifs qui ont construit ce lien et cette passion pour l'histoire camerounaise, on m'a pas parlé tout de suite, ni évidemment de la guerre d'indépendance, des martyrs et des héros de l'UPC, et on m'a pas parlé tout de suite, alors que finalement le temps était court entre mon premier séjour au Cameroun et 1991, de ce qui s'était passé. Au fur et à mesure, des étudiants, des professeurs, les écrivains que j'ai pu rencontrer m'ont à leur manière, transmis l'histoire de ces manifestations, de ce printemps camerounais, d'une certaine manière, qui réclamait enfin la vraie indépendance, enfin une vraie démocratie, enfin une pluralité de partis, enfin la prise en compte de la spécificité des régions anglophones, et une crise qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai cherché, j'ai lu beaucoup de récits, des travaux d'historiens passionnants, des romans qui témoignaient de ce qui s'était joué en 1991, et j'ai trouvé que c'était une histoire tragique. Et quand j'entends tragique, c'est évidemment des morts sans sépulture, des oubliés, des disparus. Alors l'histoire de Catherine et celle de Jean Martial, c'est une métaphore de ce qui s'est joué cette année-là. Et pour ceux qui continuent à entretenir la mémoire de cet homme martyr et de cette femme disparue, c'était une manière de montrer que la jeune génération n'oublie pas et continue à chercher.
Et même s'il s'agit d'un roman très personnel que vous devez porter en vous depuis longtemps, est-ce que pour autant on peut dire qu'il s'agit d'un roman politique, d'autant qu'il est donc publié en cette année des 60 ans de l'indépendance?
Ça, c'est le hasard. C'est le hasard des publications. Oui, je porte ce livre depuis longtemps et il était crucial parce que je vous parlais au début de cet entretien de la dette que j'avais. Je voulais que le livre soit à la fois un chant d'amour et aussi, c'est vrai, alors livre politique, je sais pas, mais livre où la question politique et la question des luttes et la question de la mémoire est centrale, ça, j'ai essayé de le faire. Oui.
Et est-ce que, concernant les années 80-90, vous avez rencontré des témoins qui se sont confiés à vous ?
Par leur récit écrit, oui. Il y a par exemple cet écrivain que j'ai eu la chance de publier, Patrice Gagnon, qui
a été emprisonné, lui aussi d'ailleurs très récemment.
Qui a été emprisonné très récemment à l'occasion d'un de ses séjours à Yaoundé. Il a été emprisonné à Yaoundé, mais il passait par Douala. Dans ses romans, il témoignait de cette révolte à l'université de Yaoundé et des revendications très précises. Et ça, c'est relayé par tous ceux qui l'ont vécu, des étudiants qui parlaient des amphis pleins, du manque de moyens, des dortoirs terribles et puis d'une réelle engagement politique hérité de leur père. Moi, je crois que la beauté de ce pays et de ceux qui y vivent, c'est qu'ils n'ont pas oublié les combats anciens et qu'ils sont les dépositaires et qu'ils n'ont jamais renoncé. Quand on interroge aujourd'hui des gens sur la mort des héros de l'UPC, ils vous diront « on s'est pas battu pour cette indépendance-là, mais on va continuer à se battre parce qu'on y croit toujours et que ceux qui ont payé le prix dans les maquis dans les années 50-60 sont en nous, vivent en nous et qu'on croit à l'indépendance. » Et la force aussi de l'histoire camerounaise, c'est d'avoir des écrivains, des intellectuels, des journalistes qui se battent tous les jours, qui sont les héritiers, par exemple, du fondateur du Messager, qui est ce journal si emblématique. J'avais lu son récit de prison bloc-notes d'un bagnard, qu'il avait publié après sa détention dans la prison de New Bell à Douala. Et un journaliste comme le rédacteur en chef du journal Le Jour, Aman Mana, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est héritier de ce journaliste engagé. Voilà, et j'avais envie que ce roman, qui est vraiment un roman et qui est entre la fresque historique, le roman d'amour, le mystère d'une disparition et un livre où la politique tient une place particulière, soit un hommage à ces gens qui se battent.
Wow. When we PMS, long years my pouvi, guayem noe, gua. When we bleres, mimbumwes misira, guayem noe. Oh, nubi pe nil njel poron we.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Anne-Sophie Stefanini avec qui nous parlons de son troisième roman paru sous le titre « Cet inconnu » aux éditions Gallimard. On l'a dit en première partie, l'histoire d'un pays, le Cameroun, l'histoire d'une indépendance et ses conséquences et surtout l'histoire d'un héritage, d'une transmission, car après la disparition de Jean Martial et Catherine en 1991, l'un mort suite à son incarcération et l'autre disparu au sens propre du terme, puisque plus personne ne l'a revu après une nuit de mai, ce sont leurs enfants qui portent le poids de cette histoire. Constance, fille de Catherine, née à Yaoundé, mais repartie à Paris, et Ruben, fils de Jean Martial, devenu lui chauffeur de taxi la nuit, comme on l'entend dans cet extrait du début de votre roman. Anne-Sophie Stefanini, est-ce que vous voulez bien nous le lire ? Nous sommes page 27.
Ce soir, la première course de Ruben l'amène rue Nana Tchakounté. En route, il s'arrête trois fois. Boulevard de l'Oua, boulevard Rudolf Mangabel et boulevard Sultan Nyonya. Les hommes descendent de son taxi, d'autres les remplacent presque aussitôt. C'est toujours comme ça au début de son service. Après minuit, il sera seul avec un client, deux peut-être, qui préfèrent payer davantage plutôt que de supporter les autres et les arrêts, le hasard, la déviation, le temps si long. Le premier client s'est installé sur le siège à côté de lui. Ruben a préféré déposer les autres avant. L'homme n'a rien dit et Ruben a compris qu'il pourrait le garder toute la nuit, l'emmener partout. Il ne veut pas rentrer chez lui. Pourtant, il fait semblant et après de longues minutes durant lesquelles la voiture n'a pas avancé d'un mètre, il y a un accident plus loin, leur dit-on. Mais Ruben est sûr que ce n'est qu'une voiture arrêtée au milieu de la rue pour une course ou une avenue coupée par un convoi officiel, rien de grave. L'homme s'énerve. « Tu connais ton chemin, toi ? Tu sais où tu es ?» Et puis il rit, certain qu'il pourra négocier le prix de la course. Il appuie la tête contre la vitre et maintenant il raconte des blagues. Ruben n'a pas de plan de Yaoundé dans son taxi. Certaines rues n'ont pas de nom, parfois il faut faire avec la désignation floue de ses clients, au carrefour, à l'embranchement, devant la boutique de Photomax. Des directions qui changent tout le temps, des accidents et des embouteillages qui surgissent et disparaissent on ne sait comment. Il n'était pas fait pour devenir chauffeur de taxi, mais s'il regarde autour de lui, les hommes au volant des voitures jaunes, ou même maintenant les hommes en costume comme à Paris, ou New York, imagine-t-il, qui conduisent des voitures privées maquillées en voitures neuves pour plaire aux enfants riches de la ville et aux voyageurs classe affaires. Peu de ses collègues étaient faits pour conduire un taxi. Chacun se débrouille.
Merci beaucoup Anne-Sophie Stefanini pour cette lecture de votre roman « Cet inconnu » où on entend l'une des quatre voix de ce livre Ruben. Nous sommes aujourd'hui, c'est le fils de Jean Martial. Ce garçon avait tout un avenir devant lui. Et puis, en fait, il a sans doute été rattrapé par l'histoire de son père, par l'histoire de Catherine, cette amie qu'il considère presque comme sa mère, qui elle aussi était une militante. Et en parallèle, on va entendre un peu plus tard la voix donc de Constance, qui elle a choisi de travailler dans un hôtel la nuit où elle est veilleuse. Est-ce que, de fait, c'est aussi un roman sur la transmission parent-enfant ? Et est-ce que, pour autant, le combat se transmet ?
Oui, c'est évidemment un roman qui interroge la question de la transmission. Dans le cas de Ruben comme de Constance, c'est une transmission impossible qui, du coup, doit faire avec les silences, l'absence et les récits tronqués. Lorsque le père de Ruben est emprisonné puis meurt, Ruben n'a qu'une dizaine d'années et d'une certaine manière, son initiation qui devait être faite par son père, son initiation de jeune homme, politique, ne peut pas se faire. Et il va essayer de reconstruire l'histoire de son père à sa manière. Sans doute sans pouvoir prendre les mêmes armes que son père, sans devenir journaliste, parce que justement la transmission a été impossible, mais en devenant chauffeur de taxi, en arpentant cette ville tous les soirs et en essayant d'être digne de sa mémoire et en pensant cependant qu'il n'arrive pas totalement à être le fils que son père aurait aimé qu'il soit. Donc avec la question d'une forme de trahison ou de déception. Dans le cas de Constance, lorsque sa mère disparaît, il y a un double deuil. Il y a évidemment le deuil certain de la mort de sa mère. Et puis il y a l'obligation pour elle de rentrer à Paris où elle va être élevée par sa grand-mère. Et donc il y a l'arrachement au pays natal. Et à ceux qui composaient son enfance, c'est la fin de l'enfance. Et là aussi, comme pour Ruben, évidemment, sa mère n'est plus là pour lui dire pourquoi elle était partie au Cameroun, pourquoi elle était devenue communiste, pourquoi elle s'était engagée, pourquoi elle était tombée amoureuse de l'idéal politique incarné par Jean Martial. Et elle n'a, d'une certaine manière, que les résultats très parcellaires d'une enquête mal faite. Elle n'a que des archives historiques qui lui disent peu qui était sa mère, et un carton où sont rassemblées les affaires de la défunte. Donc pas grand-chose. Dans ces cas-là, comment combattre et comment être digne, là aussi, des engagements de ses parents, c'est difficile. Et pour elle, ça va passer, comme pour Ruben qui vit la nuit, par vivre la nuit dans un hôtel près de la gare du Nord, pas loin du quartier africain de Paris, éveillée. Et tous les deux sont des veilleurs à leur manière, mais des veilleurs impuissants, pas comme leurs parents. Et je crois que peut-être, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens s'engagent, prennent des risques, prennent les armes et se battent. Mais dans le cas de Constance comme de Ruben, ils incarnent une génération privée des armes, du combat, ou qui connaissent trop bien le prix à payer pour ça.
Donc pour vous, c'est pas forcément le constat d'un échec, Anne-Sophie Stefanini ?
Ah non, non, non. Chacun porte un regard particulier sur ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Ruben continue à vivre à Yaoundé. Il arpente les rues de sa ville tous les soirs. Et c'est un veilleur. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle manière d'essayer de faire vivre la mémoire des siens. Constance, elle hésite, elle se demande si elle doit retourner vivre à Yaoundé comme sa mère l'avait fait, et sans doute elle aurait aimé que Constance le fasse, mais il faut qu'elle choisisse son propre chemin. Donc ça, je crois pas que les enfants doivent forcément épouser les combats de leurs parents. Ils doivent essayer de les comprendre, de faire vivre leur mémoire, mais de trouver aussi leur propre manière de vivre. Et dans le cas de Ruben comme de Constance, c'est pas de devenir journaliste, pas de devenir professeur, mais de chercher une autre voie.
Si Constance n'a pas hérité du combat au sens activisme du terme, elle a hérité de sa mère le goût pour la littérature camerounaise. Mmh. Et en effet, dans sa bibliothèque, on trouve les titres de Mango Betty. Bien entendu, vous avez cité un peu plus tôt Anne-Sophie Stefanini, qui est mort en 2001. Autre écrivain de cette littérature contemporaine, Max Loeb, qui vit en Suisse, Emily Boom, qui elle est en France, comme si d'ailleurs la nouvelle génération d'écrivains camerounais était en exil. Je vous pose d'autant plus la question que vous êtes éditrice et que vous connaissez bien ces littératures. Est-ce qu'en effet cette nouvelle génération est hors du Cameroun, ou au Cameroun aussi il y a des écrivains dont la voix se fait entendre en ce moment?
Le Cameroun a une littérature extrêmement riche. Je me souviens qu'à 15 ans, le premier texte qu'on me fait lire, c'est celui de Ferdinand Onoyo, Le vieux nègre et la médaille. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des études sur la littérature africaine, le Cameroun était un terrain pour des romanciers magnifiques. Et je pense évidemment à Mongobetti, qui reste pour moi sans doute mon préféré, à la fois pour ses romans Ville cruelle ou Remember Ruben, comme pour ses textes où il témoigne de la situation politique et de son propre exil, notamment La France contre l'Afrique, qui raconte son retour au Cameroun en 1992. Il y a une nouvelle génération dont vous avez parlé, Max Loeb, Emily Boom, Timba Bemba, que j'aime beaucoup également. Il y a Gaston Poliffa, Eugène Baudet, Patrice Gagnang, enfin, qui sont des écrivains superbes. Je suis convaincue qu'il y a aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, à Bafoussang, des auteurs qui vivent de façon cruciale la situation politique de leur pays ou qui, juste par leur roman, témoignent de leur vie. Lorsqu'on a ouvert ce concours Voix d'Afrique, je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est l'occasion.
Si, on peut en parler. Et en effet, je rappelle à nos auditeurs que avec les éditions Jean-Claude Lattès, où vous êtes éditrice, RFI a organisé ce concours d'écriture sous le titre Voix d'Afrique, qui est un appel aux manuscrits qui vient de se clore. Donc nous allons maintenant travailler sur les manuscrits très nombreux qui nous ont été envoyés pour élire un jeune écrivain prochainement.
Mmh. On est très heureux de cette première édition de ce prix Voix d'Afrique avec RFI, parce qu'on a recueilli près de 6000 inscriptions. Et je trouve que c'est une manière très belle de montrer qu'aujourd'hui, du Cameroun au Mali, en passant par le Sénégal ou la Mauritanie et Djibouti, il y a là de jeunes gens qui veulent écrire, qui veulent témoigner par le roman d'une vie, d'une histoire, d'une mémoire. Et sur ces inscriptions, on a presque 500 manuscrits. Et ça nous rend très heureux. Et quand je vous parlais du Cameroun, le Cameroun n'est pas en reste dans ces 500 manuscrits, puisque beaucoup nous ont envoyé des textes.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a une singularité de la littérature camerounaise par rapport aux littératures des autres pays du continent ?
Ben, je constate surtout une très grande vivacité. Je constate qu'il y a, chez les romanciers camerounais, le grand soin apporté à l'histoire, et aussi chez la jeune génération, ce qui est le signe que il y a une transmission par l'écriture des combats, de la mémoire. Donc oui, il y a une vivacité forte, et puis ensuite chaque littérature a ses spécificités.
C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler en cette année, encore une fois, des 60 ans de l'indépendance du Cameroun, de ce roman qui paraît donc un peu par hasard, mais tant mieux pour le hasard, cet inconnu et qui se déroule dans ce beau pays que vous connaissez. Un livre que vous signez, Anne-Sophie Stefanini, et qui paraît aux éditions Gallimard.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Tous les cinémas.